Radio Barque 3e, c'est-à-dire la partie qui est consacrée à notre invité exclusivement, dont je rappelle que c'est Nicolas Sainte-Cluc, porte-parole de l'association J'aime Narbonne, du groupe municipal d'opposition également, qui porte le même nom, si je ne me trompe, Nicolas.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Voilà. Alors, vous avez très récemment inauguré votre local de l'association J'aime Narbonne. À celui qui s'intéresse pas à la politique, ça peut paraître banal. Par contre, pour celui qui s'intéresse à la vie municipale, c'est quelque chose de très significatif.
Oui, en fait, on a inauguré ce local aussi parce que c'est vrai que la mairie de Narbonne nous a pas donné aussi de local en tant que groupe d'opposition, comme on l'avait fait nous.
Ah, vous aviez un petit truc, si ?
Non. Enfin, aussi, oui, un bureau de 8 mètres carrés pour 10 personnes. Donc vous comprenez bien que c'est un peu compliqué de travailler autour d'un petit bureau avec une chaise ou même deux chaises. Et d'ailleurs, très peu accessible, hein, c'est-à-dire que les personnes aussi handicapées ne peuvent pas y accéder. Donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on se donne les moyens d'exister, de pouvoir recevoir les gens, de faire aussi des réunions publiques et commencer un peu à élaborer un projet pour la ville et pour son agglomération.
Vous ne vouliez pas être obligé de tenir vos réunions dans une cabine téléphonique, comme on disait.
Voilà, Jean-Louis. C'est un peu ça. Même si aujourd'hui les réseaux sociaux sont très puissants, on a quand même encore besoin de se réunir et de se rencontrer. Je crois que même c'est un besoin qui va peut-être augmenter dans l'avenir parce qu'on s'aperçoit que finalement, malgré les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus important que la rencontre et l'échange.
Alors justement, vous êtes en train un petit peu, alors copier entre guillemets ou vous calquer sur ce que fait Nouveau Narbonne depuis pas mal d'années, c'est-à-dire des réunions régulières.
Alors c'est vrai que moi je suis à Narbonne depuis 18 ans. J'ai pas vraiment connu moi l'origine hein, de Nouveau Narbonne, mais c'est vrai que j'ai discuté avec vous aussi. C'est vrai que c'est dans cet esprit. Alors apparemment ils l'ont perdu cet esprit, hein, puisque vous parliez aussi de chartes, de géométrie variable. Voilà. Nous notre objectif, c'est de réunir des gens qui ont pour projet Narbonne et le Grand Narbonne, c'est-à-dire un projet d'avenir, et avec un esprit surtout d'ouverture, d'écoute, et peu importe de savoir si les personnes dans leur vie privée eh bien, votent à droite, à gauche, au centre. La seule chose, il faut quand même avoir un esprit républicain, c'est-à-dire ne pas être un extrémiste. Hein. Bon, même si on discute quand même avec des gens aussi, on peut toujours penser, moi en tout cas c'est mon avis, on peut toujours réussir par l'éducation, par la pédagogie, par des arguments aussi qui parfois amènent les gens à voir qu'ils se trompent, les ramener vers un peu vers des choses plus modérées. Je crois que c'est aussi notre devoir de le faire.
Alors une première remarque quand même, vous-même vous êtes socialiste,
oui, tout à fait.
Beaucoup de vos amis dans ce groupe sont socialistes, dans le groupe d'opposition municipale ils sont socialistes, comment arriverez-vous à vous démarquer justement de cette image qu'on va tenter de vous coller systématiquement ?
Bien sûr, alors je vais jamais renier moi le fait que je suis un socialiste, je suis encarté. Vous savez déjà par rapport aux adhérents, il y a à peu près 170 adhérents et il y en a un tiers qui sont socialistes. Voilà. Donc déjà, on peut dire qu'on a déjà réussi, si vous voulez, ce pari-là. Maintenant, il nous manque peut-être des gens du milieu économique, des gens aussi, peut-être encartés aussi à droite.
Encartés à droite, c'est-à-dire
oui, tout à fait.
Ça n'est pas un vice rédhibitoire.
Ce n'est
pour
pas
vous.
Un vice rédhibitoire, du tout. Ce qui compte, je crois qu'il n'y a pas de bonnes idées qui sont particulièrement à gauche ou à droite. Il y a de bonnes idées tout court. Quand on gère une ville, eh bien, il faut surtout avoir la diversité. Si on gère une ville entre soi, on commet des erreurs, me semble-t-il. Donc il est important d'avoir plusieurs sons de cloche pour prendre les meilleures décisions possibles.
C'est-à-dire il y a une volonté de vous asseoir sur un pragmatisme qui a été la force d'un ancien maire pendant longtemps.
Oui, tout à fait.
Michel, une remarque.
Oui, et puis je crois que c'est peut-être la prise en compte d'une nouvelle réalité politique aujourd'hui, à savoir qu'on ne peut plus, notamment au niveau communal, agir comme traditionnellement, comme on le faisait dans le passé, par des alliances politiques entre partis, sur la base de programmes contractés entre eux, avec des répartitions de rôles. Je crois qu'effectivement, cette période-là est finie et que, voilà, ça implique une participation beaucoup plus active de l'ensemble des citoyens, quelles que soient leurs opinions, à un projet, et au mieux s'il est élaboré de manière collective.
Donc J'aime Narbonne, c'est ça.
Tout à fait. Je veux rebondir sur ce qu'a dit Michel, c'est très intéressant, sur justement la démocratie et la démocratie participative. Et ça a d'ailleurs été notre premier thème, première thématique, puisque notre réunion publique du 12 février 2016 a porté justement sur la démocratie participative. Vous disiez aussi tout à l'heure que les élus n'aimaient pas les comptes. Par contre, c'est vrai qu'on a des comptes à rendre et les comptes à rendre, tout simplement, c'est d'avoir les meilleures politiques possibles, les plus efficientes possibles, et utiliser les deniers publics, en clair, les impôts de tous les gens, de la meilleure façon possible pour avoir des résultats. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi éduquer les gens. C'est-à-dire que vous parliez de tout à l'heure de la difficulté qu'il y a à faire des réformes. Vous avez vu quand même aussi, par exemple, au niveau du département, qu'il y a eu l'abandon de la clause générale de compétences, qui pour moi est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut arrêter effectivement d'avoir des compétences liées où tout le monde ne sait plus qui fait quoi, pour effectivement essayer d'avoir des politiques beaucoup plus ciblées, plus efficaces. Mais après, il y a aussi une éducation des gens à faire. Parce que vous apercevez que les gens veulent quoi, souvent, quand vous discutez avec eux? Ils veulent beaucoup de services près d'eux, beaucoup de services, ils veulent la sécurité, ils veulent beaucoup de choses. Mais derrière, ils veulent aussi qu'il y ait des économies, de fait. Mais tout ça, il faut donc éduquer les gens, leur dire, voilà, si vous voulez effectivement ça, eh bien, il y a telle méthode pour y arriver. Mais ça demande aussi des sacrifices d'un autre côté. Et je crois que le rôle aussi du politique, et peut-être le futur politique, entre guillemets, dans le bon sens du terme, parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui un sentiment
d'éloignement
du politique
par rapport au fonctionnement,
voire de discrédit envers la classe politique.
C'est ça.
Appelons
un chat.
Hein.
Et je crois qu'il faut
toucher moins d'ailleurs les élus locaux, en fait, au passage.
Ça touche moins les élus locaux, mais on a vu quand même que c'est de moins en moins vrai.
C'est vrai.
Et donc, du coup, je crois qu'il faut vraiment réintroduire la démocratie participative et donner aussi le pouvoir aux gens d'agir sur leur ville, sur leur environnement. Parce qu'on voit aussi qu'il y a un désengagement des gens dans tous les domaines. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, vous avez de plus en plus de communication, de gens qui communiquent par les réseaux sociaux, mais en même temps, vous avez un désengagement dans les associations, vous avez un désengagement en politique, et vous avez aussi une perte de est-ce que je peux améliorer la vie de tous les jours? Et les gens ont l'impression qu'il n'y a plus d'espoir possible. Il faut redonner espoir. Et cet espoir, il passe par l'engagement. Et pour engager les gens, mais il faut leur donner les pouvoirs aussi et les intéresser à la politique de la cité. Parce que la politique, c'est ça. C'est la gestion de la cité. Et c'est quand même une chose noble et qui est importante.
Et la gestion de la cité, est-ce que ça passera pour vous comme pour un de vos prédécesseurs, qui ont marqué l'histoire de cette ville, par un non-cumul des mandats défendu, mordicus, si je puis dire?
Oui, non,
parce que, disons-le clairement, le Parti socialiste dont vous faites partie,
oui,
s'était engagé à un non-cumul des mandats.
Tout à fait.
Puis on voit qu'il y a des dérives et des renoncements et qui sont assez insupportables et qui doivent ajouter au discrédit.
Non, vous avez tout à fait raison. Donc moi, je suis pour le non-cumul des mandats, effectivement. Après, non-cumul des mandats, ça aussi,
c'est précisant ce que ça veut dire.
Ce que ça veut dire, parce que après, vous avez
dans
aussi
dans quelle limite, en quelque sorte.
Dans quelle limite? Et ça, c'est toute la difficulté. Hein, dans quelle limite? Parce que vous avez aussi plusieurs exécutifs. Est-ce que ce sont juste des mandats de représentation? Est-ce que c'est sans délégation ou avec délégation? Bah, tout ça est très compliqué. Et vous avez aussi des vous êtes président aussi de certaines commissions. Et ce sont aussi des mandats qui échappe un peu à la vigilance des gens. Donc tout ça est à remettre à plat. Et je crois aussi qu'il faudra qu'il y ait un réel travail fait sur le statut de l'élu. Parce que moi, ce que je vois aussi, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens, on tape sur les élus en disant, voilà, il y a des rémunérations, etc., etc. Mais derrière, quand vous voyez les élus locaux qui travaillent, qui ont un travail, qui sont obligés de passer à 70% de leur temps, donc qui a une baisse de leur rémunération dans le privé, et qui croient en ce qu'ils font, eh bien, je crois qu'il faut maintenir effectivement un véritable statut de l'élu, parce qu'il faut permettre aussi à des gens qui sont actifs d'être élus. Et qu'on n'ait pas, comme dans certains pays, notamment aux États-Unis, des élus qui finalement sont des gens riches, qui n'ont pas besoin effectivement d'un véritable statut de l'élu et qui
d'une certaine façon sont eux aussi déconnectés des réalités.
Complètement.
Oui. Sans aller jusqu'aux États-Unis, entre parenthèses, quand on fait une analyse comparative des pays européens, on est le seul pays en Europe, mais même dans le monde d'ailleurs, où on a un tel nombre d'élus et un tel nombre de cumuls.
Oui.
Alors, c'est vrai, il a raison, Nicolas, il ne faut pas non plus tout mélanger, quoi. Hein, cumuler un mandat de conseiller général, bon, c'est pas en soi, c'est pas scandaleux.
Oui,
quoi,
on reste dans une territorialité.
Cumuler effectivement un mandat de président de conseil général avec un mandat de président d'aglo, là, ça va pas du tout. Quoi.
Tout
donc,
à fait.
C'est très difficile
à comprendre.
De la même manière, j'insiste là-dessus aussi, hein, c'est vrai qu'il faut pas non plus considérer que toute la classe politique en fait, est pourrie, pour utiliser une expression classique, quoi, hein, et entretenir un populisme. Bon, 80%
d'entre 90%. On sait fort bien.
Et c'est comme les trains, ça.
Voilà,
population. Quoi. Mais on sait fort bien
qu'il suffit parfois de quelques brebis galeuses pour discréditer tout un ensemble.
On se souvient toujours du train qui arrive en retard, mais jamais de celui qui arrive à l'heure.
Oui, bien entendu.
Cela dit, une question, parce que très bien sur la participation pour l'élaboration d'un plan. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que pendant 6 ans, quand un maire comme le nôtre, par exemple, Thomanette, on a tendance à considérer que ce qui a été vendu pendant la campagne, c'est une obligation qu'on doit rendre effectivement aux électeurs, comme si finalement l'électeur avait eu la possibilité de considérer que, par exemple, une salle polyvalente, c'était absolument nécessaire.
C'était le nec plus ultra indispensable.
Donc, pendant 6 ans, on laisse faire. Je serais, par exemple, assez favorable à ce que le maire en question dise, voilà, je vais organiser un référendum sur Narbonne pour vérifier si effectivement ce que je propose est et correspond à un besoin réel de la population.
Mais à condition que ce soit un référendum ouvert, c'est-à-dire pas avec des questions fermées et avec aussi les tenants et aboutissants. C'est-à-dire, voilà combien ça va coûter pour l'investissement, voilà combien ça coûtera en fonctionnement, et voilà ce que je pourrais faire en équivalent avec cet argent-là.
Exactement.
C'est ça un véritable choix. C'est donner toutes les informations aux gens pour qu'ils puissent prendre une décision. Sinon, c'est trop facile. Si vous faites des questions fermées, je fais salle multimodale ou tel autre investissement, et bien sûr, vous présentez le dossier salle multimodale de telle manière qu'on peut dire que oui. Ça, c'est de la démocratie pipée.
Oui, être capable de ne pas s'entêter, en quelque sorte.
Bien sûr. D'ailleurs,
je fais une petite parenthèse là-dessus. Un tout petit peu d'histoire de Narbonne. 20 ans en arrière, Hubert Mouly avait prévu une salle, grande salle, qui avait plus ou moins une configuration semblable. Et il était revenu sur cette décision.
Ce qui prouve qu'il était intelligent et qu'il avait le sens de
l'intérêt
général.
Il avait dû comprendre à un moment que financièrement, ça passerait pas, ou que quelque chose...
Que ce n'était pas une priorité, bien sûr.
Oui, que ce n'était pas une priorité. Alors revenons à J'aime Narbonne. Donc vous allez fonctionner sur un système assez classique de groupe, de commission, pour élaborer un projet futur.
Tout à fait.
Parce que le but avoué, clairement avoué, faisons la transparence totale, c'est bien pour vous de reconquérir la mairie de Narbonne.
Oui, c'est tout à fait. C'est mettre en place une équipe
qui, dès qu'elle est élue,
soit en capacité de mettre en œuvre un projet. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de perte de temps non plus. Parce qu'il n'y a rien de pire aussi que cette période où on doit voir comment ça fonctionne et qu'est-ce qui a été fait, etc. Voilà. Là, le fait aussi d'être une opposition vigilante, on se tient au courant des dossiers. Du coup, ça nous permet de travailler aussi dans ce local, nous, élus, pour justement voir un peu tout ce qui se fait au niveau de la mairie. Donc on perd pas le lien, au contraire. Et aussi d'élaborer de nouveaux projets. Alors pour l'instant, au niveau des commissions, on commence par des réunions publiques tous les mois à thème, ce qui nous permet aussi déjà de prendre des notes et de voir un peu de ce qui se dit, avec des échanges avec le public, faire venir aussi des gens qui sont spécialisés entre guillemets dans un domaine pour dire justement ce qu'ils pensent de tel sujet. Le prochain sujet, c'est par exemple le handicap, ce que me semble-t-il qui est très important et qui est d'actualité. Et ensuite, à partir de là, on va créer les commissions avec des gens qu'on a repérés aussi qui sont intervenus dans tel ou tel domaine. Pour monter ce projet. Alors c'est vrai qu'on a 4 ans pour le faire, c'est à la fois long et court. À mon avis, c'est le moment, en tout cas, il est temps de s'y mettre.
Oui, probablement. Oui, 4 ans, c'est sans doute pas trop long pour préparer notamment des projets et fédérer et souder des gens, en quelque sorte.
Et sélectionner une équipe.
Et sélectionner une équipe. Tout à fait. Alors c'est quand même un vaste programme, Nicolas Saint-Cluc. Être porte-parole de ça, sans que ça soit péjoratif, c'est quand même un vaste programme.
Mais je ne suis que le porte-parole. Nous sommes suffisamment nombreux, il y a suffisamment de talent dans J'aime Narbonne pour justement faire en sorte que tout ça puisse se faire de manière cohérente et collective, surtout.
Et est-ce que, justement, vous disiez, quelqu'un qui est encarté à droite peut très bien venir, même si ça serait pas très probable, c'est quelqu'un que vous accepterez sans sectarisme et sans un peu racisme plus ou moins caché.
Non.
Parce que c'est un peu ce qui se passe dès l'instant où il y a une tendance politique générale.
Oui, mais ce n'est pas du tout la philosophie de notre groupe.
Oui, et puis ce qui serait en plus, c'est que poserait plus apparemment un problème à la personne en question qu'au groupe qui le recevrait. C'est à la personne encartée à un parti qui en toute responsabilité prend effectivement cette décision et doit rendre compte à sa conscience et au parti auquel il appartient.
Oui. Question. Alors, on parlait tout à l'heure de cumul des mandats et de ce que ça veut dire. Vous êtes aujourd'hui conseiller général départemental, on dit maintenant conseiller départemental. Bon, ça Est-ce que vous considérez pour vous que c'est un cumul des mandats d'être à la fois conseiller municipal et départemental ?
Non, parce que j'ai pas de délégation au niveau du conseil municipal, donc j'ai pas de projet à mener, j'ai pas d'action à part celle d'être vigilant et d'intervenir lors des conseils municipaux. J'ai pas d'action particulière. D'ailleurs, la question aurait pu se poser lors du premier vote au conseil municipal de savoir si on rémunérait ou pas aussi tous les conseillers municipaux. Nous, c'est ce qu'on aurait fait parce qu'on considère quand même qu'on va à certaines réunions. Et on doit participer aussi à certaines commissions. Mais bon, c'est un travail qui prend 3-4 heures par semaine, on va dire, comme conseiller municipal. Mais après, la fonction, par contre, de conseiller départemental, là, c'est autre chose. Hein. Mais on peut cumuler les deux. Il n'y a pas de difficulté.
Voilà. Par contre, si... Ni psychologiquement ou moralement.
Non, du tout.
Alors vous avez une responsabilité au département, ce sont les énergies nouvelles.
Tout à fait, les énergies renouvelables. Donc pour l'instant, ce que l'on a fait, comme l'agglomération d'ailleurs, nous avons obtenu le prix pour les territoires à énergie positive pour la croissance verte, donc de 500 000 euros. Et nous, notre principale action sur les 2 ans à venir, c'est tout d'abord sur la création d'aires de covoiturage, puisqu'on est quand même un peu en retard hein, sur la création d'aires de covoiturage dans le département. Et donc on va en créer une dizaine d'ici les 2-3 ans à venir. Donc le ministère de l'économie et des énergies renouvelables nous a abondé en ce sens. C'est-à-dire qu'on va avoir 400 000 euros pour les aires de covoiturage. Le département va financer lui aussi 400 000 euros. Ça va nous permettre déjà d'en créer une dizaine. Et on va essayer de les créer de manière, bien sûr, bien répartie sur l'ensemble du territoire, et notamment en zone surtout périphérique. Urbaine, hein, donc par exemple Narbonne, Carcassonne, Castelnaudary, bien entendu, parce que c'est vrai que ça permet d'économiser tout simplement du CO2. Hein, et puis les gens sont très demandeurs. Moi j'ai vu par exemple qu'en Vendée, en Normandie, en Bretagne aussi, c'est très très développé, ça marche très très fort. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup aussi d'air sauvage qui pose des difficultés de sécurité aussi, notamment de conflits d'usage aussi avec les grandes surfaces. Hein, de plus en plus d'air de grandes surfaces sont utilisés comme aires de covoiturage. Donc voilà une action positive. Deuxième chose que l'on va faire aussi, c'est un diagnostic des énergies renouvelables sur l'ensemble du département.
Mais une petite parenthèse, à propos de voitures, il y a aussi les bornes électriques que vous êtes en train de développer. Alors, d'ailleurs, il doit s'en inaugurer une à Narbonne vendredi avec RDF et je ne sais plus le nom de la société.
C'est ça, c'est RDF qui
voilà. Là aussi, il s'agit d'encourager la voiture électrique.
C'est ça, tout à fait. Alors, les bornes sont posées, par contre, par le SIADEN, hein, qui est le syndicat de l'énergie.
Et bien sûr, syndicat Audois.
Le syndicat Audois, tout à fait. Et ce qui va nous permettre aussi, justement, on travaille justement avec le SIADEN, pour faire en sorte que les aires multimodales qui vont être créées, certaines puissent bénéficier de ce genre d'équipement. Alors, toutes en bénéficieront pas, hein, puisque notre budget, quand même, est limité. Certaines aires auront aussi plus de prestations que d'autres. On peut aussi imaginer des ventes de produits locaux pour certaines aires si elles sont près de zones commerciales, par exemple, aussi un accès à des voies vertes. Bon. Et ça sera en fonction, effectivement, du travail qui est élaboré aussi par le SIADEN pour développer, effectivement, aussi l'utilisation des véhicules électriques.
Voilà, il va falloir conclure. Un dernier mot, peut-être, sur ces énergies renouvelables. Alors, les éoliennes qui font débat dans
Les éoliennes font débat, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore contre, hein, qui trouvent que c'est esthétiquement pas bien.
Surtout les riverains,
voilà. Bon, même s'il faut être à 500 mètres. Alors, ça a posé des problèmes, surtout aux riverains, avant qu'il y ait des lois et qu'il y ait effectivement des règlements particuliers. Ceux qui étaient à moins de 500 mètres, par contre, c'est vrai qu'ils ont vraiment des soucis de bruit. Voilà. Mais après, il faut quand même être clair. Les éoliennes, c'est quand même une force pour le département. On est pour l'instant le premier producteur en éolienne, me semble-t-il. Mais il y a aussi le photovoltaïque, il y a aussi la méthanisation, il y a aussi l'hydraulique. Et tout ça, il faut le développer. Et bien sûr, il y a des problèmes, des conflits d'usage, etc. Et donc notre volonté, justement, c'est de faire un diagnostic de ce qui a été fait, ce qu'il est possible de faire sur l'ensemble du territoire pour devenir autosuffisant. Pour l'instant, nous avons sur le territoire 50% en autosuffisance. On veut arriver à 100%. Mais pour cela, il faut avoir aussi après un plan d'action. Donc c'est ce qu'on va faire. Après, proposer aux différentes communes, collectivités, un plan d'action pour développer les énergies renouvelables et pour faire en sorte aussi d'éviter... Il y a certains endroits où, effectivement, on ne pourra jamais faire d'énergie renouvelable, où ça peut aussi mettre en danger le biotope, certains oiseaux, etc. Donc tout ça est à penser. Mais il faut aussi, je crois, communiquer avec les citoyens pour leur faire comprendre que les éoliennes, eh bien, c'est quand même l'avenir, et que si on les pose au bon endroit et si effectivement certaines barrières psychologiques tombent, eh bien on pourra faire en sorte que le département de l'Aude soit développe les énergies renouvelables, soit même peut-être un producteur d'énergie pour le reste.
Pour en exporter,
tout à fait. Et avoir sa propre filière économique, parce que c'est vrai qu'on a, une chance, on a le vent, l'eau, l'air, et on peut être un des premiers producteurs de France.
Alors à vous, en tout cas, de convaincre les gens que les éoliennes, c'est parfait. Merci.
Je le ferai pas seul.
Merci Nicolas Saint-Cluc d'être venu nous parler à la fois de votre casquette de porte-parole de l'association J'aime Narbonne, mais également de cette compétence au niveau du conseil départemental.
C'est moi qui vous remercie.
Le prochain invité, ce sera un syndicaliste enseignant, Nicolas Sirvin. Après quoi, nous recevrons Didier Codorniou très prochainement.
Okay, on parlera d'éoliennes probablement.
Oui,
aussi.
Voilà. On reviendra à l'aglo avec Viviane Durand. Frère François, pour parler de religion, est prévu également.
C'est bien.
Et puis, nous, comme Grand Sud FM couvre également les Pyrénées-Orientales, nous ferons venir le nouveau patron des Républicains des Pyrénées-Orientales, François Lieta. Merci à vous et à la semaine prochaine.
Au revoir. À la semaine prochaine.